Hello, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière de naturopathe. Je suis formée à la psychologie positive et passionnée de trichothérapie. Et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout trichothérapie. Alors, si tu ne sais pas du tout par où commencer, genre tu sais que ça va pas, tu sais que tu es en burn-in ou en burn-out, mais voilà, tu sais pas quoi faire, quand et comment, je te recommande de rejoindre le podcast privé. C'est 5 jours de conseils qui sont accompagnés d'exercices, bien évidemment, pour que tu passes à la pratique, pour que tu te mettes ton mouvement et que tu commences à faire des choses. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, chère Burnies, j'ai mis en place un nouveau format de podcast. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait les solos où j'exposais un sujet, je partageais ma réflexion ou des exercices ou des conseils et tout ça. Il y avait aussi les interviews. Enfin, ils sont toujours là de toute manière. Et j'ai ajouté un truc que j'appelle tout simplement la FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions, où je pars d'une question qu'on me pose, ou tous les sondages que je peux mettre sur Instagram, sur la Safe Place, voilà, je pose quelle est ta problématique, et après je vois avec la personne qui me répond pour avoir un peu plus d'infos sur sa problématique justement. Et ensuite, moi j'en fais un épisode, comme ça c'est un sujet bien précis, c'est le vécu d'une personne bien précise, et j'apporte une réponse pour le coup collective. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment arrêter de me mettre des attentes trop élevées ? Je suis extrêmement exigeante avec moi-même et avec les autres. » D'ailleurs, j'en profite, si tu veux me partager ta problématique pour que je puisse te répondre dans un épisode de podcast, tu as plusieurs possibilités. Soit tu m'envoies un mail à hello@boost-ton-feeling-good.fr, soit tu me fais un message privé sur Instagram ou un message privé dans la Safe Place, voire même dans le feed hein, de la Safe Place. Et bien évidemment, tu peux me laisser aussi un commentaire sous cet épisode. C'est juste que sur Apple Podcast, je les vois. Après, sur les autres plateformes, je ne sais pas trop. Je prendrai le temps de revenir vers toi si jamais je n'ai pas toutes les infos pour pouvoir y répondre lors d'un épisode de podcast. Donc, comment arrêter de se mettre des attentes trop élevées et être extrêmement exigeante envers soi et du coup envers les autres ? C'est une question super pertinente parce que j'ai envie de dire c'est le fardeau de toutes les burnies. T'as tendance à te fixer des attentes irréalistes, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle. Hein. Mais en plus, genre tu vas pinailler sur des petits détails et tu vas en faire toute une histoire alors que le truc n'est pas important du tout. Et tout ça entraîne énormément de stress et du coup mène forcément au burn-out. Premier truc que j'aimerais te dire, c'est qu'il est important que tu reconnaisses que tu n'es pas parfaite en fait. C'est tout, c'est la vie, c'est comme ça. Jamais de la vie, tu ne présenteras un travail parfait. Jamais de la vie, ton repas ne sera parfait. Jamais de la vie, tes enfants ne seront parfaits. Jamais de la vie, ton allure ne sera parfaite. C'est comme ça, la perfection n'est pas pour l'être humain. Mais voilà, l'humain, lui, il est composé de forces, mais aussi de faiblesses, de performances, mais aussi de lacunes. Donc la perfection, c'est mort. Faut vraiment que tu comprennes qu'un travail bien fait, eh bien, ça peut être juste un travail bien fait. Mais qu'un travail bien fait, il peut avoir des imperfections, il peut être fonctionnel peut-être à 80%, il peut bugger de temps en temps, il peut être un peu trop salé ou un peu trop sucré, mais ça reste un travail bien fait. Et c'est un exercice que tu peux très bien faire avec toi-même. Tu prends ton carnet, ton stylo et tu te demandes vraiment quelles sont les attentes que tu as envers toi, envers tes projets et envers les autres. Et pour chaque attente, est-ce que c'est réellement réaliste ? Ou est-ce que c'est trop élevé ? Et pour savoir si c'est élevé ou non, il faut se renseigner, c'est clair. En fait, c'est ça, c'est vraiment sortir de ta bulle, de tes croyances à toi, de ce que tu considères comme étant bien fait, présentable, pas présentable, tout ça. En fait, tu sors de toi un peu et tu vas voir ce qui se fait ailleurs. Et tu vas constater que y a des choses qui sont très fonctionnelles, pratiques, efficaces, qui donnent des résultats, et pourtant elles ne sont pas du tout parfaites. Alors, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on va souvent donner des exemples de Amazon, de PayPal, pour dire que les plus grandes boîtes d'aujourd'hui, quand tu vois leur première interface, le premier site qu'ils ont mis en ligne, il était tout dégueulasse. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Genre, au début, Amazon, c'était que des livres. PayPal, pareil, c'était tout nul et tout restreint. Il n'y avait pas grand-chose que tu pouvais faire avec PayPal. Mais il n'empêche qu'ils l'ont quand même mis en ligne. Et on l'a utilisé tel quel, parce qu'il était efficace. Et petit à petit, avec les feedbacks, les machins, ils ont plus de sous, ils peuvent investir plus, nanana, ils ont amélioré. Et ça a donné, et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Donc, toi-même, ne serait-ce que ton repas, s'il apporte les nutriments qu'il faut au corps, bah même si visuellement il n'est pas topissime, c'est pas grave. La prochaine fois, tu verras comment tu peux améliorer le visu. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut travailler cette notion, ton rapport en fait au regard des autres. C'est que forcément on a tous peur d'être jugé, c'est comme ça. On ne veut pas être jugé et on croit que si on donne le meilleur de nous, on ne sera pas jugé. Et ça, c'est faux. Parce que tu seras jugé quoi qu'il arrive. Donc, c'est accepter d'être jugé. Mais être réellement satisfait de ce que tu fournis parce que tu sais que c'est efficace, que ça répond aux besoins et que ça fait le taf en fait. Mon deuxième conseil, ça va être de pratiquer la bienveillance envers toi. Et pour vraiment approfondir ce sujet, je te conseille 3 épisodes. La bienveillance envers soi, la communication non violente envers soi et les 4 accords de Toltec. Où tu vas vraiment apprendre à être finalement ta meilleure amie. Et tu vas comprendre comment être ta meilleure amie. Parce que sincèrement, si aujourd'hui il y a ta pote qui t'appelle et qui te raconte tous ses malheurs, ta première réaction, ça va être de la réconforter, de la rassurer. Ben, pourquoi est-ce que tu fais pas ça avec toi, quoi? Vraiment apprendre à être sa propre meilleure amie. Ensuite, au lieu de te critiquer comme ça en disant « Ah, c'est pas encore bien, attends, faut que je corrige ça, non, c'est pas encore bon, c'est pas encore beau, c'est pas nanana », pourquoi pas célébrer plutôt tout ce que tu fais de bien. Si nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. C'est-à-dire que tu as un point de vue biaisé sur ce que tu fais bien et sur ce que tu ne fais pas bien. À ce moment-là, mais changeons notre perspective du coup. Voyons les choses avec un point de vue plus bienveillant et plus réaliste. Et tu pourrais demander du coup aux gens qui t'entourent, qu'est-ce que t'en penses ? Si la personne elle te dit vraiment c'est trop salé, c'est pas bon. Si l'autre elle te dit non mais là ça se voit que c'est pas du tout professionnel ou voilà, ça sera des critiques constructives et tu pourras améliorer ce qui ne va pas. Mais si la personne elle te dit c'est bien, bah c'est tout, c'est bien. Allez, passons à autre chose. Troisièmement, je dirais apprendre à déléguer. Vraiment voir tout ce que tu as à faire et puis prioriser. Qu'est-ce que les autres peuvent faire ? Qu'est-ce qui est dans leur capacité ? Dans leurs compétences, et qu'est-ce que tu es absolument obligé de faire. Au moins, il y a une partie du boulot que tu ne devras plus gérer. En fait, faire appel comme ça à tes proches ou à tes collègues ou qu'importe, ça peut vraiment alléger ta charge mentale et émotionnelle. Mais ça veut dire qu'on lâche prise. Ça veut dire qu'une fois que la personne elle doit s'occuper de sa part, elle s'occupe de sa part. Et si jamais sa part elle est mal faite, c'est sa responsabilité à elle. Et du coup, bah, c'est à elle de corriger, de réajuster et c'est tout. Ça arrive que les gens fassent mal leur boulot, c'est pas grave. C'est aussi accepter l'erreur de l'autre et donc il fera mieux la prochaine fois. Du coup, dans la vie pro, eh bien, quand tu délègues quelque chose à quelqu'un, la tâche en question, elle doit être dans sa fiche de poste, dans ses compétences, dans ses capacités. C'est-à-dire que tu as le droit de lui déléguer cette tâche-là. Imaginons, c'est ta responsabilité quand même. Bon, n'empêche que le plus gros du travail, c'est lui qui l'a fait et toi, tu viens juste corriger ce qui ne va pas. C'est pas comme si tu devais te retaper le boulot de A à Z. Quatrième conseil, ça va être de fixer des objectifs réalistes et réalisables. Et là, que ce soit dans la vie pro ou perso, moi je recommande toujours d'avoir un carnet, un stylo et toujours tout écrire dans ce carnet de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a à faire. Avoir un agenda avec des dates, avec des couleurs, des post-it s'il faut et tout ça. Vraiment que tout soit sorti de notre tête et que ce soit écrit. Mais avant de mettre par exemple une action sur une journée bien précise, c'est-à-dire avant de commencer à planifier, tu dois lister tous tes objectifs, tu dois lister tout ce que tu as à faire et ensuite tu décortiques. Et le but quand tu décortiques, c'est de voir si tu as toutes les ressources, si tu as assez de temps, si tu sais le faire, sinon à qui tu peux faire appel, à qui tu peux déléguer, est-ce que tu es obligé de tout faire, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à supprimer, des trucs comme ça. Au moins ça te fait un premier tri. Et ensuite, quand tu commences à planifier, là aussi, tu prends en compte le temps dont tu disposes et de toute manière, tu vas remarquer qu'il y a des journées beaucoup trop chargées, il y a des projets, la deadline elle est beaucoup trop courte Et après, bah, y a un dialogue qui se met en place, que ce soit en famille ou au boulot, pour dire que ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, ainsi de suite. Mais en tout cas, le fait de décortiquer, de planifier et tout, ça va vraiment te permettre de mesurer ta progression. Et je terminerai par le fait d'apprendre à te pardonner. Si tu fais une erreur, si ton boulot ne répond pas aux attentes, si t'as raté ton gâteau, ton repas ou je ne sais quoi, c'est des choses qui arrivent. On est des humains et en fait, toute notre vie, c'est de l'apprentissage et de la croissance. C'est comme ça. La personne qui arrête d'apprendre, de toute façon, elle régresse. Et toutes celles qui continuent à être actives, à vouloir évoluer, forcément, elles sont en mode apprentissage. Et à chaque fois que tu apprends quelque chose, forcément, tu fais des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage et de la croissance. Donc, l'accepter. Et du coup, te pardonner lorsque tu cafouilles ou que tu fasses mal ou que tu te gourres ou je ne sais quoi, mais tu te pardonnes et après tu cherches qu'est-ce qui n'a pas été et tu réajustes et tu recommences. Vraiment, c'est une étape essentielle pour se libérer du poids de la perfection, ça c'est une certitude. Pour te donner des exemples concrets, j'avais une cliente qui devait mettre des routines self-care, voilà, pour réduire le stress, pour mieux dormir et tout. Étant comme ça perfectionniste, elle s'est donné mais une routine de warrior, d'athlète, genre le truc où il fallait se lever trop tôt, il fallait faire plusieurs activités, c'était pas forcément adapté ni à sa journée, ni à ses contraintes, ni même à son état d'énergie, c'était vraiment pas adapté, mais elle est partie du principe que si ma routine self-care est parfaite, eh bien je vais avoir des résultats parfaits. Et genre des résultats rapides, j'imagine. Petit 1, c'est pas parce que tu te laves à 5h du mat que tu enchaînes méditation, journaling, gratitude, petit-déj d'athlète et compagnie que forcément tu auras des résultats rapidement. Pas du tout, parce qu'au contraire, elle était partie sur une routine pas du tout réaliste, donc en fait elle avait beaucoup de mal à la mettre en place, bah résultat, frustration. Frustration, sentiment d'échec, pas contente du tout. Du coup, bah, quand on s'est revu en coaching, j'ai dû expliquer que non, tu pourrais commencer ne serait-ce que par 3 minutes de respiration abdominale par jour. Commence ne serait-ce que par juste manger le bon pain le matin, pas forcément celui qui est tout raffiné, tout blanc, prend quelque chose de plus complet avec des céréales et tout, rien que ça. Des petits changements de rien du tout, qui sont très très loin d'être parfaits et qui vont donner des résultats tout petits, mais c'est l'effet cumulé qui nous intéresse. Donc quand tu constates une erreur, un truc qui ne va pas, première chose, c'est de te dire « Ok, j'ai foiré, ça arrive, ça se trouve, je vais me faire lyncher, mais mon erreur s'explique, donc je cherche la raison de mon erreur pour corriger le tir, et puis voilà. Encore une fois, on passe à autre chose. » Alors oui, tu vas me dire « Mais Sarah, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, et tout, et tout. » Bah, dis-toi qu'au début, c'est difficile, tu ne vas pas forcément y arriver, mais comme tout, c'est à force de faire, de s'entraîner, tu finiras par te conditionner, et avec le temps, ce sera aussi facile à faire que à dire. Et je peux te citer un autre exemple, parce que je te dis, c'est un truc tellement courant que forcément je l'ai vécu avec toutes mes clientes. Il y en a une, à un moment donné, je lui dis, mais tu sais que l'entreprise, elle n'est pas à ton père, tu ne vas pas l'hériter, voilà, c'est tout, t'es un pion parmi tant d'autres et arrête de te donner corps et âme pour que tout soit bien fait, parfait. Parce qu'elle se mettait une pression énorme, elle se sentait obligée de tout gérer elle-même, de s'assurer que tout soit parfait, même si ça voulait dire travailler tard le soir, sacrifier son temps personnel, ne plus avoir de loisirs, ne plus voir personne, négliger sa personne tout simplement, ne pas bien manger, bref, arriver au burn-out au final. Donc voilà, petit à petit, on a retravaillé ce rapport au travail. Pour qui est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que c'est pour être bien vu, pour être bien aimé? Parce que t'en fais trop. Mais pourquoi est-ce que tu en fais trop? Et c'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Mais pourquoi j'en fais trop? C'est pour qui? C'est pourquoi? Et si demain tu en fais moins, quelles vont être les réelles conséquences? Imaginons tu en fais moins. Quelles vont être les réelles conséquences? Et quand je dis tu en fais moins, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ton travail. Ça veut juste dire que tu fais ton travail tout simplement et que tu n'en fais pas trop, tu n'en fais pas plus qu'il n'en faut. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement? Et est-ce que cette conséquence-là sera aussi stressante et anxieuse que ce que peut générer ton perfectionnisme au quotidien? Mais voilà, une fois qu'elle a compris qu'en fait elle pouvait faire moins tout en présentant un travail correct, qui est appréciée, elle a compris que ça générait beaucoup moins de stress. D'ailleurs, elle a appris à reconnaître ses signes de stress, c'est surtout ça, pour dès qu'elle sent que ça monte, bah tout de suite elle met en place un truc qui lui permet de redescendre, de diminuer le stress. Et petit à petit, elle a appris à déléguer. Alors toujours un peu en panique au début, et encore une fois avec l'entraînement, bah ça devient limite. Tu prends goût au fait de déléguer et tu ne vois plus faire autrement. Et moi, j'ai même envie de dire un truc qui ne va pas plaire, mais je trouve assez prétentieux que de croire que genre t'es la seule à bien faire un truc et que les autres, ils sont incapables de faire aussi bien que toi, tu vois. Voilà, je pose ça là à méditer. Et puis après, on a revu les objectifs, l'organisation. De toute façon, c'est un truc que je fais avec toutes les nanas que j'accompagne parce que ça peut tout changer. Quand une tierce personne regarde ton planning, et puis tu vois, avec un regard neuf et objectif, elle t'aide vraiment à remanier tout ça pour que ce soit plus léger pour toi, plus réaliste encore une fois. Donc pour résumer, pour arrêter de te mettre la pression comme ça avec des attentes trop élevées, pour arrêter d'être autant exigeante envers toi-même et envers les autres, je dirais commence par identifier tes attentes irréalistes. En regardant un peu ce qui se passe ailleurs. Il y a des gens qui font bien leur boulot sans être parfaits. Pratiquer la bienveillance envers toi-même, te pardonner quand tu fais des erreurs parce que ça fait partie de l'apprentissage. Même te pardonner quand tu n'es pas à la hauteur de ce qu'on attendait de toi. Tu vois, bah, ça arrive parce que tu es humaine. Apprendre à déléguer, à demander de l'aide, ça va t'alléger. Revoir tes objectifs, voir s'ils sont réalisables ou non. Et surtout, ne plus subir le regard des autres. Parce que ça change la vie quand même, de mener sa vie comme on l'entend, sans devoir à chaque fois faire gaffe au jugement, parce que dans tous les cas, tu seras jugé, et ça, que tu le veuilles ou non. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Après voilà, le jugement, ça fait partie de l'humain, donc il faut l'accepter aussi. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager cet épisode tout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Et puis pour échanger sur cet épisode, une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous dans la Safe Place. Pour éviter les réseaux sociaux. Mais sinon, bah, rendez-vous sur Instagram, c'est possible aussi. Et on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.